mouvement intérieur que vous appelez tropisme. Pourquoi cet emprunt à la science, à la biologie végétale?
Je l'ai tellement de fois dit.
Et pourtant, écrit. Je ne l'ai pas trouvé dans les interviews que j'ai lues.
Mais dans la préface de l'ère du soupçon, je crois que j'ai fini. Enfin, je vais
non, la raison pour laquelle c'est un terme biologique, non. Scientifique, non.
Non.
C'est ça que je
c'est un terme qui me semblait rendre ces mouvements qui ne sont pas sous l'empire de la volonté, qui ressemblent au mouvement des plantes, sous l'effet d'une excitation extérieure. J'avais cherché un titre, ben j'ai pris ce titre-là.
Oui, mais vous savez, quand je vous ai posé cette question, c'est parce que c'est pas par un hasard que vous êtes allé emprunter un terme à la science.
Non, pas c'est tout à fait, parce que uniquement parce que
ça vous paraissait.
Ça me paraissait proche de ces mouvements-là, qui sont des mouvements tout à fait indépendants de la volonté et qui ressemblent, qui font un peu penser au mouvement des plantes qui se tournent dans la lumière ou se détournent.
C'est votre exactitude qui me fait penser à une position scientifique. Je sais, mais il y a quelque chose d'une position qui évoque celle d'un scientifique. Votre exactitude.
Je crois que l'étropisme, c'est un terme qui est connu même par les non-scientifiques. Mm-hmm. N'est-ce pas? C'est un terme très connu, enfin, même à l'époque.
Non.
J'ai pris.
Dès le début, vous avez écrit sur les mouvements intérieurs. Est-ce que vous pourriez dire ce qui vous a conduit à regarder ça et écrire sur ça?
Impossible. C'est impossible. On ne peut pas soi-même analyser pourquoi on sent d'une certaine façon.
C'est-à-dire que ça reste comme un mystère pour vous-même.
Mais c'est une chose qui... Je ne me tourne pas vers moi-même pour me poser cette question.
D'accord. Vous avez refusé le roman traditionnel parce que vous étiez en quelque sorte né pour être l'écrivain des mouvements intérieurs et partant, vous ne pouviez écrire sur ces mouvements en vous soumettant aux règles de la littérature réaliste.
Mais ces mouvements intérieurs, c'est la base de toute littérature. Toute la littérature a décrit des mouvements intérieurs. Je voulais montrer quelque chose qui n'est pas de l'analyse, mais qui est du mouvement même. Le rendre par le mouvement même de la forme. Les montrer justement en mouvement. Parce que les mouvements, les sensations intérieures ont toujours été la base de la littérature.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui, par rapport à ça, fait la différence entre le projet de Proust et le vôtre?
Ce que fait Proust... Où il y a la découverte immense de tout un monde qui jusqu'à lui paraissait inconnu, c'est que c'est au niveau de l'analyse. C'est que Proust analyse ce qui est déjà passé. Il l'analyse avec la plus grande finesse. Et moi, ce qui m'intéressait, ce que j'ai fait sans y penser, sans le vouloir, je n'ai pas réfléchi en disant « je vais faire ça ». C'est venu comme ça, comme un poème. J'ai voulu montrer la chose qui est en train de se faire et qui se fait par le rythme, par le mouvement même des phrases. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est en continuel mouvement.
D'accord, j'ai compris.
Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un écrivain engagé du côté de la vérité, pas de la vraisemblance, et que le nouveau roman est une forme neuve du réalisme ou un nouveau réalisme?
Je le pensais au moment où j'écrivais l'ère du soupçon, que c'est une nouvelle façon d'appréhender la réalité, ce que je faisais. Mais quand j'ai écrit l'ère du soupçon, je voulais juste me débarrasser des contraintes qui avaient été imposées toujours par la critique, par les lecteurs, du personnage, de l'intrigue, du mouvement, du temps chronologique qui ne pouvait pas arriver à rendre ces mouvements.
Et aujourd'hui, vous pensez qu'on pourrait dire que c'est un nouveau réalisme? C'était un nouveau réalisme.
Oui, c'est toujours. Pour moi, c'est vrai.
C'est vrai.
Et nouveau réalisme pourrait faire croire que d'autres devraient appliquer ça.
Ah oui, et ça.
Mais non,
ça ne vous intéresse
pas. C'est un domaine
pas.
Qui m'est propre où je
Bien
suis.
Bien sûr.
Et je crois que toute imitation est toujours mauvaise.
C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'en littérature, il n'y a pas de maître.
Absolument. Chacun est son propre maître.
Voilà. D'accord, j'ai compris. C'est dès votre entrée en littérature que vous vous autorisez à utiliser systématiquement la langue orale, contrariant en cela la tradition littéraire française. J'aimerais savoir ce qui vous a conduit à faire ce choix et si l'influence de Céline a pesé d'une manière ou d'une autre.
Aucune influence de Céline. Aucune. Pas nombre d'influence. J'aimais beaucoup Le Voyage au bout de la nuit quand il est sorti. Et je n'ai jamais pensé même ce que c'est de la langue orale.
Oui.
Je ne trouve pas que dans les tropismes, ce soit toujours de la langue parlée orale.
Vous l'utilisez des...
Bah oui, oui, c'est normal, mais ce n'est pas du tout une volonté d'utiliser la langue parlée, pas du tout. Il y a beaucoup de passages, même dans le dernier livre, qui sont tout de même écrits, entièrement écrits.
De toute façon, l'oralité est toujours stylisée.
Elle est partout dans la littérature, c'est pas... Je ne pourrais pas répondre à ça, vraiment.
D'accord. Bon, aujourd'hui, vous voici dans la Pléiade, n'est-ce pas? Cependant, votre parcours éditorial n'a pas été des plus communs.
Non.
Tropisme est publié en 1939, mais c'est en 1956 qu'on savise que vous avez ouvert un domaine nouveau à la littérature. Le portrait d'un inconnu, pourtant précédé d'une préface de Sartre, est refusé par Gallimard.
Pas seulement par Gallimard, par tout le monde.
Par tout le monde. Alors, comment vous expliquez ce manque d'enthousiasme des éditeurs au début à l'égard de votre travail?
Parce que je crois que c'est très difficile. Ce sont des livres difficiles et que les lecteurs n'étaient pas habitués à cette forme. C'est une forme qui leur paraissait très difficile et qui n'appréhendait pas. Encore maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à entrer dans les livres.
Et c'est grâce à laisser l'air du soupçon que cette résistance...
Non, pas du tout, parce qu'après ça, Martoro a eu très peu de lecteurs. Je continue toujours à avoir très peu de lecteurs. Mais j'en ai maintenant de plus en plus, parce que petit à petit, les gens se sont habitués. Pour prendre les grands exemples, quand Proust a paru en 24, les gens n'y comprenaient rien.
Quand il a paru. Oui.
La plupart des gens n'y comprenaient rien. Claudel disait qu'il a beau se prendre la tête à deux mains et comprend pas un mot. Maintenant, un enfant de 14 ans peut lire Proust. Il y a toujours une évolution.
Bon, et Sartre même en 56. Après avoir fait la préface du livre antérieur, il a refusé l'air du soupçon, si je ne me trompe pas.
Il a refusé pour le publier dans les temps modernes. Il avait pris dans les temps modernes le premier article et il a refusé conversation et sous-conversation. L'air du soupçon est paru dans les temps modernes.
Mais pourquoi il a...
Parce que ça allait à l'encontre de tout ce qu'ils écrivaient, Simone de Beauvoir et lui, qui continuaient à écrire des dialogues dans la vieille forme, qui avaient des personnages, etc.
Bon, vous avez dit que le mouvement du nouveau roman avait eu le mérite d'attirer l'attention du public sur des écrivains dont chacun revendiquait la liberté de la forme, mais qu'il n'y avait rien de commun entre eux, c'est-à-dire Simon, Robespierre, Michel Butor et vous-même.
Absolument. Il n'y avait de commun que cette revendication d'une liberté des formes que possèdent tous les arts.
Bien sûr. Mais ne pensez-vous pas que ce mouvement portait à lui la tendance à exacerber les différences et à montrer et à faire valoir les singularités?
Je ne peux pas vous parler des autres, parce qu'on travaillait, on ne se voyait pas, on travaillait chacun de son côté, et très différemment. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils recherchaient et parler de ça.
Comment ça s'est passé la première rencontre? Comment ce
La première rencontre s'était passée entre Rodrier et moi au château 2. On était habité par Gilbert Gadoffre. Il avait été intéressé par l'article « L'ère des soupçons » et il avait écrit un article dessus dans la revue Critique.
Oui. Par qui, Gilbert?
Gadoffre. Gadoffre.
Gadoffre.
D-O-2-F-R.
Oui. Oui. Bon, donc il y a eu cette première rencontre.
Cette première rencontre, et puis Robrier a donc écrit cet article dans Critique, il était beaucoup plus connu que moi à l'époque, sur l'ère du soupçon.
Ah, sur l'ère du soupçon.
Oui, c'est ça.
Et le mot nouveau roman,
Le mot nouveau roman a été employé par Émile Henriot quand après les tropismes ont été réédités aux éditions Nini, en même temps que la jalousie de Robrier.
Ah oui.
À ce moment-là, Émile Henriot, qui n'aimait pas d'ailleurs ces deux livres, avait dit c'est du nouveau roman. Et Robrier s'était emparé de ça.
Il a donc écrit un article ou quoi là-dessus.
Émile Henriot était critique dans Le Monde.
Oui. Mais Alain Robrier s'est emparé de ce
mot. Pour sa propagande, si vous voulez, pour lancer. Il voulait lancer ce mouvement.
Et comment il l'a fait, dans les journaux, vous savez pas?
Oui, je me rappelle plus. Il dirigeait les éditions Nini avec Jérôme Lindon. Alors, il voyait beaucoup de gens.
Et à ce moment-là, vous avez rencontré Claude Simon,
non,
Victor?
Non, pas du tout. J'ai rencontré ça. On se rencontre.
D'accord.
J'ai rencontré Claude Simon beaucoup plus tard, en 82, pour la première fois, à New York.
Et Marguerite Duras?
J'ai rencontré, j'étais amie avec elle, mais je crois qu'elle n'appartenait pas, elle ne tenait pas entrée dans ce mouvement.
Vous avez été amie avec elle?
Oui, j'aime beaucoup Marguerite Duras.
Elle est très aimée dans mon pays aussi.
Oui, ça m'étonne pas.
Bon, est-ce que vous pourriez parler des effets du nouveau roman sur la littérature actuelle, ou vous pensez que c'est trop général comme
question? Oui, je suis incapable de porter des jugements sur toute la littérature actuelle.
Dans la littérature actuelle, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous aimez?
Ça,
vous en parlez?
Non, je n'aime pas.
D'accord.
Non,
je suis à parler. Oui, bien sûr. D'accord, je comprends. Bon, alors, on revient à votre travail. Quand vous parlez des étapes qui marquent l'élaboration de votre travail, vous dites que vous trouvez d'abord le thème, qu'ensuite vous écrivez votre texte du commencement à la fin.
C'est ce que je faisais avant, autrefois.
Comment vous le faites maintenant?
Maintenant, je fais morceau par morceau.
Ah, c'est ici, c'était morceau par morceau.
Ici, et tous les précédents depuis l'usage de la parole. Mm-hmm.
C'est-à-dire, pour faire chaque morceau, vous trouvez le thème.
Chaque page, puis j'ai fait définitive. Avant, j'écrivais d'un bout à l'autre pour avoir les thèmes, les mouvements, etc. Puis je recommençais tout en travaillant chaque page. Maintenant, après, j'ai arrêté.
Et pourquoi vous pensez que vous avez changé? Quelle est la raison
littéraire? J'ai changé parce que je vieillissais et j'avais peur de ne pas pouvoir finir.
Parce que vous aviez quoi?
Je vieillissais, j'avais peur de ne pas finir quand j'écrivais comme ça. 300 pages qui n'étaient pas travaillées. J'ai voulu déjà m'assurer que ça c'était fait.
Ça c'était fait. Quand vous dites que le thème, comment ça se passe pour vous? Comment vous le trouvez?
Ça me vient.
Ça vous vient.
Je ne peux pas vous dire.
C'est-à-dire ça s'impose d'une certaine manière.
Ça m'intéresse.
Oui. D'accord. Oui. Bon. Et l'écriture, comment elle va s'organisant? Elle suit un plan prédéterminé ou le plan se fait au fur et à mesure que vous écrivez?
Je note dans un cahier d'abord des thèmes, des sensations, etc. que je note dans un cahier, puis après j'écris sur des pages blanches avec une pointe.
C'est-à-dire au fur et à mesure, ça se fait sans plan?
Non, je ne fais pas le plan. Pas de
plan.
Ça se fait. À mesure.
Se fait à mesure que vous écrivez. Bon, vous dites que le rythme est fondamental pour votre texte, n'est-ce pas? Peut-on dire que vous écrivez une musique que le musicien n'écrit pas, mais que seul le poète peut écrire?
Je suis très contente de l'entendre, mais Je n'oserais pas moi-même porter des jugements comme ça sur moi. Je ne le vois pas assez du dehors, vous voyez.
Parce que moi, j'ai entendu des musiciens qui ont écrit des livres, des romans, dire « ce que je fais, c'est de la musique ». Et moi, je n'étais pas du tout des grands musiciens même, pas du tout d'accord. J'ai eu le sentiment que la musique, dans un texte, seul le poète peut le faire, évidemment. Pas le musicien.
Évidemment, un musicien, il s'agit d'employer le langage et pas les notes de musique.
Voilà. Donc faire de la musique avec des mots, c'est tout autre chose que de faire de la musique avec des notes.
Ça n'a aucun rapport.
Voilà. Je vous remercie de m'éclaircir sur ce point. Bon. Colette a dit dans une de ses interviews que la belle phrase est dangereuse pour un écrivain. Vous avez exprimé plusieurs fois la même opinion. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu
de ça? Là-dessus, tout un grand morceau entre la vie et la mort. Quand à force de travailler la phrase, elle devient trop belle. Il y a tout un passage que j'ai beaucoup travaillé. La phrase devient trop belle, elle perd son contact avec la sensation qui lui a donné naissance, elle devient morte, elle devient belle. Elle répond à un canon de beauté. Mm-hmm. C'est dangereux. Il faut tout recommencer. Revenir à la sensation pour que la phrase vive. Il ne s'agit pas de beauté. Qu'est-ce que c'est la beauté? Ça répond à quelque chose de très académique, la beauté. On ne fait pas des belles phrases. On écrit ce qui produit la sensation.
Et vous ne pensez pas aussi que dans la recherche de la vérité, on peut...
On ne recherche pas la vérité. Qu'est-ce que la vérité?
Ou une certaine vérité.
On recherche d'une certaine sensation, coller à elle le plus près possible. Et essayer de la rendre au dehors, de la faire vivre au dehors, de la transmettre avec de l'écriture.
Non, j'ai parlé de vérité parce que vous dites que ce que vous écrivez, c'est vrai.
Je ne pense pas que c'est vrai.
Je pense que le fait vrai,
qu'on
par
le
exemple,
ressent.
L'air du soupçon.
Ah oui, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Bon. Le fait vrai, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas des faits que je décris,
oui,
ce n'est
oui,
pas des faits
sûr.
Vrais, non.
C'est pas des...
Non, c'est
à la manière
pas ça,
des positivistes.
Pas le texte là, mais je ne parlais pas de ça. Je ne cherche pas à dire la vérité. Pas du tout. Je cherche à rendre ce que une sensation, comme un poème. Mm-hmm. Si c'est vrai, que ça veut dire la vérité?
D'accord. Oui, effectivement, bon, la notion de vérité, de
ça
réalité,
pas
de...
C'est quelque chose, que, une sensation, comme dans un poème, en fait.
Pour vous, d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre poésie et roman.
Non, aucune.
Aucune.
Maintenant qu'on ne rime plus.
Ouais. Ça ne fait pas de sens.
Non, pour moi.
Alors, et le dernier...
Certains romans, je ne vous parle pas de tous les romans.
Bien sûr.
Mais certains romans, je ne vois pas de différence entre, avec la poésie.
Alors, votre dernier livre, ici... N'entre dans aucun genre littéraire. Qu'est-ce que vous pensez du classement des œuvres littéraires en genre et à quoi ça sert cette classification?
Je l'ignore totalement.
Oui, mais vous pensez quelque chose à l'égard de ce que ça peut signifier le classement des œuvres
en
genre?
Ça ne m'intéresse pas, je ne m'en occupe pas. Quand j'écris, je ne me dis pas où ça sera classé, qu'est-ce que c'est, jamais.
Pourtant, les éditeurs s'y intéressent
moi,
énormément.
Moi, je ne suis pas éditeur. Alors, vous voyez, sur mon livre, on n'a rien mis. Mm-hmm. Ni essai, ni roman, parce que je ne sais pas ce que c'est.
Que pensez-vous du rapport des éditeurs avec les écrivains en France?
Je ne peux pas juger les autres pays. Moi, j'ai un très bon rapport avec mon éditeur. Tout ce que je peux dire.
Bon, qu'est-ce qui fait un bon critique littéraire?
Il m'a publié, vous savez, longtemps... Et quand ça ne se vendait absolument pas.
C'est-à-dire que, bon, il a vraiment joué le rôle d'un éditeur.
La même chose aux États-Unis. Enfin, mon éditeur, enfin, la plupart des éditeurs ont tout de même joué sur des choses qui ne rapporteraient pas beaucoup d'argent.
Donc, vous êtes...
Ils ont pris le risque.
Ils ont pris le risque. Mmh. Qu'est-ce qui fait, à votre sens, un bon critique littéraire? Qu'un critique littéraire soit bon?
Il faut qu'il soit très sensible.
Oui.
Très sensible à l'écriture elle-même. Qu'il sache lui-même rendre lui aussi ce qu'il ressent au contact d'un livre et qu'il arrive à se rapprocher de ce que le livre veut rendre.
C'est-à-dire que il soit
une sensibilité qui soit très en éveil pour chaque livre qu'il lit. Mais c'est très difficile parce qu'il est obligé de lire beaucoup.
Mm-hmm. Est-ce que vous écrivez en ce moment?
Écoutez, je viens de finir l'autre.
Ah, bon, vous venez de finir ici?
Oui.
Oui, oui, oui.
Alors, j'ai un peu commencé, mais enfin, quand même, il faut rester un peu.
Bien sûr.
Je lis bien d'un autre texte. Je commence un peu.
J'ai lu que vous allez partir aux États-Unis prochainement.
Oui,
oui. À quelle université?
NYU.
NYU.
NYU qui m'a demandé.
Vous allez pour faire une conférence?
Moi, je vais répondre. J'ai toujours fait ça les dernières années. Je réponds aux questions des étudiants. Alors, je vais répondre à NYU et puis à Columbia.
Mm-hmm. Ça vaut...
Ça reste une semaine. J'aime beaucoup, beaucoup New York. Les États-Unis en général, mais New York tout particulièrement. Là, je suis ravie d'y aller, j'espère que j'arriverai.
Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous plairait d'aller au Brésil?
Ça me plairait beaucoup. J'ai été au Brésil.
Ah, vous avez
été? Oui, c'était en 66. J'ai fait un assez long séjour au Brésil.
Où ça?
J'étais à Bahia. Bon, c'était merveilleux, admirable. C'est à Bahia que je suis allée voir, je crois, Jorge Amado.
Jorge Amado.
Jorge Amado. Il m'a fait cadeau d'une petite statuette que j'ai encore ici.
Ah bon?
Il avait une très jolie maison. J'ai été à Recife.
Qu'est-ce qui vous a plu à Bahia?
Non, c'est difficile. Il y avait à l'époque ce
merveilleux
mercade.
Hein? Le mercade.
Oh, ce que c'était beau. Et la ville était ravissante. Et... Enfin, c'est passé.
C'était dans les années...
En 66.
66. Et on...
Je ne sais pas si c'était en 66 ou 68.
Puis vous êtes allé à Recife.
Oui.
Vous avez rencontré le grand écrivain de Recife, Gilberto Freire.
Non,
le grand essayiste qui a écrit Maîtres et esclaves. Vous connaissez ce livre?
Je connais très bien.
Ah, vous connaissez ce livre?
Le livre, bien sûr. Ah. Mais je ne l'ai pas rencontré. Ah.
Il y a une fondation maintenant qui s'appelle la Fondation Gilberto Freire.
Uh-huh.
Il avait d'abord organisé une fondation Joaquim Nabuco, qui est très importante, qui pour l'étude des tropiques.
Oui. Oui, je comprends. Je cherche à me rappeler toutes les villes du Brésil.
Salvador, Recife, Rio, sûrement. Vous êtes allé à Rio, non?
À Rio, absolument. À Rio. Oh oui. Oh oui, j'ai fait un séjour même de au moins 8 ou 10 jours à Rio.
Vous habitez?
J'ai fait un séjour au moins de 8 jours.
Ouais. Votre éditeur, il se trouve à Rio.
Maintenant.
Mais non, va fronter. Mm-hmm. C'est à Rio. Et ça vous a plu, Rio?
Beaucoup, beaucoup. Et la baie, évidemment. C'est bien à Rio qu'il y avait une plage Copacabana.
Bien sûr.
Ben c'est là que j'étais dans un hôtel.
Oui, c'était l'hôtel Copacabana, probablement.
Voilà.
Hôtel très classique, très merveilleux même.
Voilà.
Vous avez vu le Christ, le merveilleux Christ.
Oui, tout à fait.
Qui a été donné aux Brésiliens par des Français, vous savez. C'est un Christ avec des yeux de métis. C'est très, très impressionnant de voir. Et vous, Vous connaissez Clarice Lispector, l'écrivain brésilien, qui elle aussi a essayé de rendre compte des mouvements intérieurs, qui a rompu avec l'idée d'intrigue traditionnelle, qui est publiée par les éditions des femmes. Bon, je voudrais savoir qu'est-ce que ça... Vous êtes peut-être fatigué déjà.
Non, il y a
pas peu de choses. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'entrer dans la Pléiade?
Ça signifie que c'est agréable, que tous les textes soient ensemble, réunis. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien.
Bon. Proust a confié quelque part qu'il ne craignit plus la mort dès qu'il sut qu'il allait faire une œuvre. Comment vous appréciez ce propos de Proust?
Ça m'est complètement étranger.
Pourquoi?
Parce que je ne pense pas que l'œuvre peut racheter la disparition de tout.
Bien sûr.
La mort est tout à fait autre chose pour moi. Mm-hmm. Et je ne pense jamais que je fais une œuvre et que cette œuvre, même si elle restait, peut remplacer la vie que je, qui est la vie pour moi. Ça n'a pour moi aucun rapport.
Bien sûr. Mm-hmm. Vous êtes la fille d'une mère écrivain. Croyez-vous que cela vous ait poussé à être vous-même
pas
écrivain?
Pas du tout, j'étais séparée de ma mère quand j'avais 8 ans.
Oui.
Elle écrivait des choses que je ne connaissais pas, qui étaient très...
Vous étiez séparée, pourquoi? Parce qu'elle est allée...
Parce qu'elle restait en Russie, elle m'avait amenée. Et c'est ici.
Et vous vous êtes restée ici avec qui?
Avec mon père.
Avec votre père.
Ça n'a aucun rapport. Aucun. Est-ce qu'elle écrivait très différent de ce que je fais? Je n'ai jamais pensé une seconde. J'ai commencé à écrire très tard.
Ah oui, c'est vrai.
J'ai jamais pensé une seconde.
Vous avez été avocate.
Oui.
Bon, dernière question, et puis après je... vous avez déclaré, que, dans une de vos interviews, que vous ne souhaitiez pas qu'on vous interrogeât sur votre dernier livre, ni sur votre vie. Alors, j'aimerais savoir de quoi souhaitez-vous parler quand on vous interviewe, et quelles questions auriez-vous aimé que je vous pose?
Très gentil de vous ça. Je n'aime pas beaucoup les interviews. Il est très difficile de commencer à expliquer en langage plat ce qu'on a voulu faire au prix d'un énorme travail.
Bien sûr.
Alors, il m'est impossible de commenter mon propre livre. Et je n'aime
vous n'êtes pas là pour ça, de
toute façon. Je n'aime pas parler de ma vie privée, alors quoi.
Et pourtant, vous donnez des interviews.
Mais oui, parce que je trouve que quand on publie un livre, on doit jouer le jeu ou alors on ne publie pas. Alors je les donne, mais je n'aime pas beaucoup ça. Je dois vous l'avouer.
Okay. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose d'autre pour les Brésiliens?
On peut dire que j'ai gardé un souvenir émerveillé de mon séjour au Brésil.
D'accord.
Donc là, l'accueil, la gentillesse était extraordinaire. C'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. Ça, c'est vrai.
Bon, voilà.
Vous voulez que je vous montre ce qu'il m'a donné?
Ah oui, bon. Je veux bien.
Ça reste toujours là.